Si vous prenez la route entre l'Argentière, l'ABC et Briançon, vous trouverez au détour d'un virage une statue monumentale. Cette œuvre du sculpteur Christian Burger représente l'alpiniste anglais Edward Whymper, le regard tourné au loin en direction de la barre des écrins. Ce sommet, il fut le premier à le gravir en 1864, écrivant ainsi une page marquante de l'histoire de l'alpinisme. Et depuis, des générations de passionnés de la montagne sont tombées sous le charme de ce massif. Aujourd'hui, le pays des écrins continue de séduire les amoureux des Alpes vraies. Suivons donc la direction que nous indique la statue de Whymper et entrons dans la vallée de Valouise-Pelvoux, dominée de toute la hauteur du mont Pelvoux. Saviez-vous que cet imposant sommet a longtemps été le point culminant de la France ? Un titre qui n'est jamais revenu à la barre des écrins, pourtant plus élevé, mais invisible depuis la vallée. En 1860, l'annexion de la Savoie et l'entrée du Mont Blanc sur le territoire français mettront fin à cette rivalité d'altitude au pays des écrins. Retour sur cette page d'histoire avec Jacques Mille, agrégé de géographie et spécialiste de cartographie ancienne.
Jusqu'en 1860, le point culminant de la France était le Grand Pelvoux, à 3928 mètres d'altitude. Et avec l'annexion de la Savoie, c'est le Mont Blanc qui est devenu le point culminant de la France. Et finalement, assez curieusement, la barre des écrins n'a jamais été considérée par les historiens de l'époque comme le point culminant de la France, puisqu'en fait elle n'était pas connue en tant que telle. C'était une réalité géographique, mais ça n'était pas une réalité portée sur des cartes de France qui mentionnaient que le point culminant c'était le Pelvoux. C'est en fait avec la réalisation de la carte d'état-major au 80 millième, à partir de 1850, qu'on s'intéresse à l'altitude des montagnes, comme ça avait déjà été le cas pour le Pelvoux, qui avait été mesuré par le capitaine Durand lors de son ascension. C'est à partir de ce moment-là qu'on va découvrir les militaires. Plus exactement, qui lèvent la carte d'état-major, vont découvrir que le point culminant du massif n'est pas le Pelvoux. En réalité, Durand s'en était bien rendu compte, puisque lorsqu'il était arrivé au sommet, il avait constaté qu'il y avait un sommet qui était un peu plus élevé que celui sur lequel il se trouvait. On en est resté là, mais on savait qu'il y avait un sommet plus élevé que le Pelvoux. Rester à le mesurer, ça a été le travail des militaires à partir des années 1850 à peu près. Et effectivement, en 1853, le capitaine Meunier a mesuré ce sommet à 4103 mètres. Donc à ce moment-là, on a établi, sans aucun doute possible, la réalité géographique des lieux, c'est-à-dire la localisation de la barre des écrins, point culminant du massif, 4103 mètres d'altitude. Mais en réalité, dès 1750, des militaires, sous les ordres du général Bourset qui levait une carte pour le compte de la France en litige avec le Piémont, avaient relevé qu'il y avait un sommet dans le massif qui était plus élevé que le Pelvoux. Le Pelvoux, on le voit très bien de la vallée, la barre, on ne la voit pas. Donc, il a fallu que ces militaires fassent un certain nombre de relevés topographiques, géodésiques, donc des triangulations avec des visées, en montant sur des sommets relativement élevés, en particulier la Blanche. Et à partir de là, visant les différents sommets pour établir les triangles qui permettaient de faire la carte en question, à une échelle extrêmement élevée, de l'ordre du 14 millième, ce qui est étonnant pour l'époque, ils se sont aperçus qu'il y avait bien la pointe du Pelvoux, qu'un peu sur la gauche, c'est-à-dire l'ouest, géographiquement parlant, il y avait d'autres sommets pointus, entre guillemets, jusqu'à l'aile froide, mais qu'entre les deux, il y avait un peu plus loin et un peu plus au nord, au nord-ouest plus exactement, un sommet plus élevé qu'ils ont appelé sur leur minute, c'est-à-dire les cartes manuscrites qu'ils levaient, qu'ils ont appelé montagne la plus élevée du vallon Saint-Christophe, parce qu'ils avaient aussi relevé ce sommet à partir de la Bérarde. Donc on savait dès 1750 que le point culminant du massif était bien cette montagne la plus élevée du vallon Saint-Christophe, sans qu'on lui ait donné une altitude particulière. Il ne mesurait pas les altitudes, simplement c'est des repères que l'on avait. Donc on sait que dès 1750, la barre des écrins, ou ce qui allait devenir, être appelé par la suite la barre des écrins, eh bien on savait que c'était le point le plus élevé du massif en question. Ce nom d'écrin, en fait, il a été pris au moment où on a confectionné la carte d'état-major, à partir du cadastre de la Pisse, à partir d'un petit ravin, et c'est ce nom de ravin des Escrins qui a été retenu pour donner le nom à la barre en question.
En cette seconde moitié du 19e siècle, l'alpinisme est une activité nouvelle et en plein essor, très prisée des Britanniques, dont le fameux Edward Whymper, qui fut le premier à atteindre le sommet de la barre des Écrins. Récit de cette ascension historique par Michel Taillant, docteur en histoire contemporaine et maître de conférences honoraires à l'Université de Toulon.
Le 25 juin 1864, Edward Whymper réussit la première ascension de la barre des Écrins en compagnie de deux compatriotes, A.W. Moore, Horace Walker, ainsi que des guides Michel Cross du Tour dans la haute vallée de Chamonix et Christian Almer de Grindelwald qui compte parmi les tout meilleurs guides de l'époque. Ça n'était pas le premier séjour de Whymper dans la région. À 20 ans, en 1860, il y avait terminé un grand périple dans les Alpes, envoyé en service commandé, pourrait-on dire, par l'éditeur londonien Longman, afin d'effectuer des dessins destinés à illustrer le deuxième volume de Peaks, Passes and Glaciers, publication de l'Alpine Club, créée à Londres en 1857. Il avait rencontré à cette occasion Jean Reynaud, agent voyé à l'ABC, c'est-à-dire responsable des voies et des chemins. Il s'était lié de sympathie et ce dernier lui avait proposé de tenter l'ascension du Pelvoux l'année suivante. Au retour de Whymper en 1861, ils vont effectuer l'ascension du Pelvoux. C'est la troisième, après celle de Durand en 1828 et de Victor Puiseux en 1848. Ils sont en compagnie d'un ami de Whymper, MacDonald, mais arrivés au sommet, ils aperçoivent au loin une montagne inconnue qui semble plus élevée et dont ils ignoraient totalement l'existence. C'est alors un grand choc et Whymper écrit dans son ouvrage célèbre « Escalade dans les Alpes »
Un sommet inconnu semblait encore plus élevé. De l'autre côté de l'abîme se dressait un grand pic au flanc pareil à des murailles, trop escarpé pour que la neige pût y séjourner, noir comme la nuit, hérissé de vives arêtes et terminé par un sommet aigu. Nous ignorions complètement quelle était cette montagne.
C'était pourtant paradoxal car le sommet était déjà connu. Repéré par les officiers géographes vers 1750 qui en parlent comme de la montagne la plus élevée du vallon de Saint-Christophe. Trois quarts de siècle plus tard, ses coordonnées géodésiques et son altitude précise, 4103 mètres, avaient été calculées par Adrien Durand, ingénieur géographe, lors des travaux préparatoires de la carte d'état-major en 1828-1830 et le nom Écrin ainsi officialisé. À la fin de l'année 1861, pour son exploit du Pelvoux, Whymper sera élu au très exclusif Alpine Club, premier club alpin du monde. En 1862 et 1863, Whymper est occupé par ce qui va devenir une véritable obsession, ses premières tentatives sur le Cervin, et il faut attendre 1864 pour le revoir de nouveau dans le massif pour s'attaquer à la barre des Écrins sur laquelle Tuckett, Bonnet et Matthews, des alpinistes anglais prestigieux, avaient précédemment subi un échec. Alors on peut brosser une rapide description de l'ascension de la barre. Parti le 24 juin de la Bérarde, en Isère, Whymper et ses compagnons vont bivouaquer le soir au sommet du glacier de Bonne-Pierre. Le lendemain matin, ils franchissent l'arête intermédiaire de Rochefort-Yot pour atteindre ensuite le haut du glacier blanc. Après de longues heures de progression difficile et pénible, et d'hésitations nombreuses dans l'itinéraire, ils atteignent enfin le sommet vers 12h30. Une très belle gravure de Whymper, dans le livre Les Escalades, montre la cordée au sommet de la barre ainsi qu'un saut acrobatique d'Almer. Il reste peu de temps au sommet. Whymper y prélève un fragment de roche et admire un panorama plus vaste que l'Angleterre entière, écrit-il. Après une périlleuse première partie de désescalade sur l'arête ouest, les hommes descendent par le glacier blanc et le glacier noir, jusqu'auprès de Madame Carl, que le groupe atteint à la nuit. Il venait de réaliser la première d'un sommet majeur et il avait réussi la traversée la plus difficile qui ait été faite jusqu'à présent dans les Alpes. Il avait alors 24 ans. Wimper, dont la statue monumentale se dresse face au Pelvoux dans les rampes de l'Argentière, était cependant un personnage atypique à bien des égards. Car enfant ou adolescent, il rêvait de voyages polaires et pas du tout de courses en montagne. D'autre part, il n'appartenait pas à la haute bourgeoisie britannique, contrairement à ses compagnons de cordée aux écrins ou même à la majorité des autres membres de l'Alpine Club. Mais cependant, il s'impose comme l'un des grands alpinistes du 19e siècle et sans doute le plus célèbre. La première ascension de la barre des écrins fut sans doute le premier de ses très grands exploits, car la notion de première ascension était un critère majeur à cette époque où se structurait l'alpinisme sportif. Mais la première du Cervin, en 1865, qui vit le terrible accident et la mort tragique de Michel Croz et de trois autres membres de la cordée, demeure comme une marque funeste sur son remarquable palmarès.
Les Anglais et l'Alpine Club ont donc donné l'impulsion au développement de l'alpinisme. Puis, très vite, à la fin du 19e siècle, les Français sont entrés dans le jeu. 10 ans après l'exploit d'Edouard Wimper à la barre des écrins, c'est la création du Club Alpin Français qui va marquer l'essor de l'alpinisme en tant qu'activité touristique et sportive. Écoutons Jean-Marc Barfetti, passionné d'histoire.
Le Club Alpin Français a été créé en 1874 à Paris par Adolphe Johann sur le modèle de l'Alpine Club anglais. Et la première déclinaison dans les Hautes-Alpes a été la sous-section de Briançon créée par Paul Guillemin en 1875. En parallèle, au niveau des alpinistes grenoblois, s'est organisée la Société des touristes du Dauphiné en 1875 avec des objectifs assez similaires à ceux du CAF qui étaient en fait d'organiser, de faire connaître, de mettre en place un réseau de refuges, de sentiers au sein du massif des Écrins. Les premiers alpinistes, en fait, ils dormaient là où ils pouvaient, soit des abris quand il y avait des cabanes de bergers, soit en plus en altitude, sous des rochers ou des cavités. Et en fait, assez vite, il a paru nécessaire d'avoir effectivement des refuges. Alors l'histoire des refuges, en fait, n'a pas été complètement faite dans le massif, mais on peut dire par exemple qu'un des premiers, c'est celui de l'Alpe de Villard-d'Arennes, qui existe toujours. Il y a eu aussi des refuges un petit peu éloignés du massif des Écrins, mais au Mont Viseau, par exemple. Et donc, il y a eu en fait une espèce de répartition de responsabilités entre le CAF, piloté par la sous-section de Briançon avec Paul Guillemin, et la Société des touristes du Dauphiné, qui se partageait un petit peu le territoire sur ces refuges. Alors, ils ont contribué au développement de l'alpinisme, mais je pense que ce qui a aussi contribué au développement de l'alpinisme, c'est qu'il restait un sommet dans le massif qui était invaincu, qui était la Meije, et qui était d'ailleurs aussi, sur l'ensemble du massif alpin, un des derniers grands sommets à ne pas avoir été atteint. Et donc, il s'est mis en place, dans les années 1875-1877, une compétition entre trois personnes qui étaient des acteurs majeurs de la vie du massif des Écrins, qui étaient donc Paul Guillemin, dont on a parlé, Henri Duhamel, qui était un alpiniste grenoblois qui a beaucoup parcouru le massif, et enfin, un alpiniste alors américain, mais qu'on prend souvent pour un anglais, qui est le révérend Coolidge. Et donc ces trois-là, en fait, dans ces années-là, ont tenté de gravir la Meije. Et Henri Duhamel, par exemple, avait atteint un point qui s'appelle toujours la pyramide Duhamel, qui est dans la voie normale de la Meije sur la face sud, et il avait dit « on n'y arrivera jamais, c'est une montagne qu'on ne pourra pas vaincre ». Et en fait, c'est un quatrième larron, Emmanuel Boileau de Castelnau, avec un guide qui est devenu très fameux, qui est le père Gaspard de Saint-Christophe-en-Oisans, qui a vaincu la Meije le 16 août 1877. Alors, Pierre Gaspard était donc un berger de la Bérarde, la Bérarde étant le hameau au fond de la vallée de Saint-Christophe-en-Oisans, qui connaissait parfaitement le massif en tant que héberger et chasseur de chamois, et qui s'est découvert par l'arrivée de tous ces touristes et par aussi l'organisation des guides par la Société des touristes du Dauphiné et par le CAF. Donc c'est découvert une vocation de guide et donc qui a accompagné ces premiers touristes comme Boileau de Castelnau et ensuite qui a été un acteur majeur de la vie du Massif des Écrins jusqu'à la fin du 19e. Et ensuite, il a été l'origine d'une dynastie avec ses fils, ses gendres, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils de guide dans la vallée de Saint-Christophe-en-Oisans. Avec cette victoire de la Meije, c'est fermé une page de l'histoire de l'alpinisme, c'est-à-dire que voilà, tous les sommets étaient conquis. Toutes les ascensions qui ont eu lieu dans ces années-là faisaient l'objet de comptes rendus, soit dans les bulletins du CAF, soit dans les annuaires de la Société des touristes du Dauphiné. Mais il manquait en fait réellement un topo guide, comme on l'entend aujourd'hui. Il existait déjà des guides touristiques, comme les guides Johann, dès 1862, mais c'était plus des guides tournés vers l'excursion, la découverte du pays, mais pas des guides de montagne. Et donc, en 1887, Coolidge, Henri Duhamel et un troisième qui s'appelait Félix Perrin ont publié un guide qui s'appelle le Guide du Haut-Dauphiné, qui est le premier guide qui décrit toutes les ascensions du massif. Et ce guide était accompagné d'une carte par Henri Duhamel, qui précisait la topographie beaucoup plus précisément que le faisait la carte d'état-major pour permettre justement aux alpinistes de dire ben voilà, je suis monté sur tel sommet, et ce sommet a tel nom, tel nom, tel nom. Il s'agissait aussi de nommer les sommets.
Après ces éléments historiques, rendons-nous maintenant sur le terrain pour faire connaissance de plus près avec la mythique barre des Écrins. Pour cela, nous suivrons les pas d'un spécialiste. Claude Albrand est guide de haute montagne, amoureux et passionné de ce sommet qu'il a gravi, tenez-vous bien, plus de 750 fois.
Alors, cette barre des Écrins, c'est d'abord une barre, c'est-à-dire une arête, qui est séparée du dôme de neige des Écrins par la brèche qui s'appelle la brèche Laurie. Le dôme de neige des Écrins est relativement facile au point de vue ascension, et il est donc très fréquenté, puisque c'est seulement ce que l'on appelle une course de neige et de glace. La barre des Écrins est un petit peu plus sélective, puisqu'il s'agit de faire de l'escalade à plus de 4000 mètres d'altitude, et bien que ce soit de l'escalade facile ou peu difficile, dans le classement de ces difficultés, c'est tout de même une course qui est sélective, et il y a beaucoup moins de monde à la barre des Écrins que sur le sommet du dôme de neige des Écrins. Beaucoup de compagnons de cordée disent que ça fait partie de leurs plus beaux moments de leur vie et dont ils se souviennent pendant toute leur vie. Atteindre un sommet, surtout un sommet qui sort de l'ordinaire, comme les sommets des Écrins, c'est tout de même quelque chose à la fois d'exceptionnel et de valorisant. Et puis il y a une vue énorme, on voit le Mont Ventoux, tout près de la Méditerranée, on devine la mer et on voit toutes les montagnes de Vanoise, du massif du Mont Blanc, de Suisse, le Cervin, les montagnes d'Italie, le Grand Paradis, c'est vraiment un sommet extraordinaire. Les conditions d'ascension vers la barre et le dôme des Écrins ont été modifiées ces dernières années par les changements climatiques et en particulier par le réchauffement climatique. Toutes les ascensions en haute montagne sont devenues un petit peu plus délicates qu'autrefois, et les spécialistes le savent, tout est à classer 1 degré de plus qu'il y a 10 ou 20 ans. À titre d'exemple et d'anecdote, lorsque j'ai débuté ce métier de guide, certes il y a plus d'un demi-siècle, les professionnels et les cordées d'amateurs étaient composés de jusqu'à 6 personnes, et des personnes pas forcément compétentes, à part le chef de cordée. Aujourd'hui, vu l'abaissement du glacier, vu les névés qui disparaissent plus rapidement à cause de la chaleur en été, vu la glace vive qui fait surface plus fréquemment, vu les crevasses qui sont quelquefois plus ouvertes que d'habitude à cause des mouvements du glacier, vu les chutes de sérac qui sont plus risquées, les cordées sont rarement composées de plus de 3 personnes. Donc c'est déjà un critère. Plus l'ascension est difficile ou technique ou délicate, plus le nombre de personnes encordées ensemble est restreint. Les alpinistes et les guides vont évidemment se servir des refuges d'altitude. Le refuge des Écrins a été construit en 1968-69. Il avait été précédé dès 1903 d'une petite cabane en bois, comme faisaient les alpinistes à l'époque. Au refuge des Écrins, il y a environ 120 matelas. Le gardien volontairement limite à une centaine de personnes. Les réservations sont devenues obligatoires. Le gardien néanmoins est obligé d'accueillir, et c'est le rôle d'ailleurs d'un refuge d'altitude, le gardien accueille tous les alpinistes qui ont besoin d'hébergement et qui seraient en difficulté. C'est le rôle premier d'un refuge. Par contre, les alpinistes qui arrivent de la vallée sans avoir réservé, le gardien pourrait être en droit de leur faire faire demi-tour. Ces refuges dans le massif des Écrins, contrairement à quelques autres refuges de France et en particulier de Suisse ou d'Italie, sont des refuges qui sont restés des refuges que l'on appelle les Alpes vraies. Quelques-uns déplorent que ces refuges soient non pas inconfortables, mais n'aient pas le confort que l'on peut trouver dans des refuges plus récents. C'est-à-dire que dans nos refuges du massif des Écrins, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de douche, sauf une petite douche pour le gardien qui y passe plusieurs mois. Il n'y a pas de coin intime pour faire la toilette, il y a des lavabos collectifs communs, il y a de l'eau froide. Et la plupart des alpinistes, même ceux qui restent 2-3 jours d'affilée, ont simplement une brosse à dents, un échantillon de dentifrice, éventuellement un échantillon de savonnette, et puis se contentent d'une vie un peu plus rude que ce que l'on a en ville et à laquelle on est habitué. Quant à l'ambiance dans ces refuges, elle est néanmoins très, très conviviale. Et on trouve de tout quand même. Parmi les anecdotes, il y en a qui arrivent avec un drap de bain et une serviette de toilette et puis un gel douche de 1,5 litre en s'imaginant qu'ils vont trouver la douche. En réalité, il n'y a rien de tout ça. Mais en général, les gens sont informés à l'avance. Tous les guides sont quasiment tous de grands voyageurs. La plupart des guides, comme la plupart des alpinistes chevronnés amateurs, vont faire, quand ils le peuvent, tous les sommets du monde sur tous les continents du monde. Personnellement, je suis allé il n'y a pas longtemps à Chamonix. J'y vais à reculons, puisque je préfère, et de loin, le massif des Écrins. Et à Chamonix, j'ai été fort déçu, alors que j'aurais dû m'y attendre, et je sais que ça existe, par le bruit des hélicoptères et des avions touristiques qui survolent les sommets et les massifs et les vallées constamment du matin au soir. C'est une nuisance à laquelle les chamoniards se sont habitués, certains, mais qu'on ne supporterait pas dans le massif des Écrins. Et dans le massif des Écrins, on a une grande chance, c'est d'avoir un parc national, et dans le parc national, tous les survols motorisés sont interdits, les planeurs sont tolérés, les parapentistes sont tolérés, mais tout ce qui est à moteur est interdit, y compris d'ailleurs les drones. Donc les Alpes vraies, la définition qu'on pourrait donner de ces Alpes vraies, c'est un endroit où la civilisation est limitée, un endroit où l'homme reste en effet discret, un endroit où les routes sont rares, un endroit où les bâtiments sont rares. On prend un village comme Elfroide. Elfroide aurait pu devenir le Chamonix. D'ailleurs, pour le sentiment des vrais montagnards, Elfroide, c'est l'équivalent de Chamonix. Mais Elfroide, il n'y aura vraisemblablement plus jamais de construction autre que celle qui existe. Et c'est ça les Alpes vraies.
L'authenticité préservée du massif des Écrins et la beauté des paysages qu'on y trouve attirent, été comme hiver, de nombreux visiteurs, séduits par la possibilité d'y pratiquer de multiples activités au grand air. Le massif des Écrins s'inscrit ainsi pleinement dans l'histoire du tourisme de montagne. Ce phénomène social en évolution constante est étudié de près par Philippe Bourdeau, professeur de géographie à l'université Grenoble-Alpes.
Alors le tourisme de montagne s'amorce dans les Alpes à partir du XVIIIe siècle, mais connaît surtout un développement, comme le montre l'histoire de l'alpinisme, dans la deuxième moitié du XIXe. Et à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, on rentre dans une période contemporaine au cours de laquelle le modèle de développement du tourisme de montagne va être tiré, porté par les sports d'hiver, avec les pratiques estivales de la montagne, qui se diversifient fortement à partir des années 1980, qui construisent une sorte de double maillage et double facette touristique entre l'hiver avec des stations orientées vers le ski, très largement, et l'été, des zones peu aménagées, tournées vers un ensemble de pratiques, dont l'alpinisme bien sûr, mais aussi à partir des années 80, l'escalade, la randonnée pédestre, le vélo tout-terrain, le canyoning, le rafting, et un ensemble de pratiques que l'on connaît bien dans nos vallées. Pour observer les fluctuations de la fréquentation, il faut essayer de prendre les choses dans le long terme. Il ne suffit pas de s'intéresser à ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans, comme on le fait peut-être trop souvent dans le monde du tourisme. Donc si on regarde à long terme, la fréquentation de la montagne est plutôt en érosion, donc à la baisse, depuis plusieurs décennies. Cette baisse est encore davantage marquée l'été que l'hiver. La montagne était, dans les années 1970-1980, au deuxième rang des destinations touristiques après la mer, et elle est passée au troisième, voire au quatrième rang après la campagne et après la ville. Sachant que à court terme, on peut avoir des fluctuations fortes, comme après la crise sanitaire, période à partir de laquelle on a constaté un fort engouement, des pics de fréquentation très marqués dans les vallées. Il est très difficile de dire si cette embellie est temporaire et conjoncturelle ou si elle est structurelle. Le regain d'engouement pour la nature qu'on a observé à la suite du déconfinement nous dit quelque chose de très fort sur le besoin de nature. Et ce besoin de nature se limite peut-être moins que par le passé à des couches privilégiées de la population qui sont les habitués de la montagne, qu'on va retrouver aussi bien l'hiver que l'été d'ailleurs, qui sont essentiellement des classes moyennes supérieures. Et là, on voit arriver un nouveau public qui peut avoir des origines sociales plus modestes parfois, qui n'est pas habitué à la montagne et avec des représentations de la montagne, des questions qui renouvellent, je dirais, le potentiel d'émerveillement que nous offre la montagne. Il est certain que le tourisme de montagne est aussi à long terme et marqué par la crise climatique qui bouscule les routines auxquelles nous étions habitués dans les massifs. La crise climatique impacte bien sûr les sports d'hiver avec une menace sur la fiabilité, la régularité de l'enneigement, mais il impacte aussi très fortement le tourisme estival et notamment l'alpinisme. On a observé depuis le début des années 2000 très forte transformation, des décalages dans les saisons d'accessibilité de la haute montagne, des conditions de course en montagne, un redéploiement des destinations et des ascensions, des changements de fonction dans les refuges, beaucoup d'adaptations de la part des guides de haute montagne. Donc le changement climatique est un acteur à part entière de l'histoire du tourisme et de l'alpinisme en montagne.
Cette plongée dans l'histoire de l'alpinisme vous a été proposée par l'Office de tourisme du Pays des Écrins et a été réalisée par Ram 05. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie d'aller y voir de plus près, soit dans les livres écrits par les différents intervenants qui ont participé à ce récit et que nous remercions, soit, pourquoi pas, directement sur le terrain pour vivre vous aussi cette expérience de l'alpinisme dans le massif des Écrins. Les professionnels de la montagne sont là pour vous accompagner.